Chapitre 30. Callan, dit Richard. Quand nous étions chez le peuple d'Adobe, un homme a dit que Ral chevauchait un démon rouge. Tu sais de quoi il parlait? Les jeunes gens avaient voyagé pendant 3 jours en compagnie de Savid Lynn et de ses chasseurs. Au moment de quitter leur ami, ils lui avaient promis de faire leur possible pour retrouver Sidine. Puis ils avaient passé près d'une semaine à cheminer vers les hautes terres pour s'enfoncer dans les Rangshada, une chaîne de montagnes qui, selon Callan, couvrait les contrées du milieu du nord jusqu'à l'est et abritait entre ses pics la lointaine allonge d'Agaden. Entouré de cimes déchiquetées, un peu comme une couronne d'épines, cet endroit maudit était mieux défendu que certaines forteresses. « Tu l'ignores ?» répliqua Callan, arraché à ses pensées par la question du sorcier.
« Eh bien, oui. »
Décidant qu'il était temps de faire une pause, Callan s'assit sur un mamelon rocheux. Avec un grognement de lassitude, Richard se débarrassa de son sac, se laissa tomber sur le sol, le dos contre un rocher, et y appuya ses bras pour les détendre. À présent que la boue blanche et noire ne maculait plus son visage, Callan lui semblait différente. Pendant les 3 premiers jours de marche, il s'était habitué à la voir ainsi.
« De quoi parlait cet homme ? » demanda-t-il de nouveau.
« D'un dragon. »«
Quoi ? Il y en a dans les contrées du milieu ? Je croyais que ces monstres n'existaient pas. »«
Eh bien, tu te trompais. Mais j'aurais cru que tu savais. Au fond, c'est logique, puisque la magie est inconnue en Terre d'Ouest. Les dragons ont des pouvoirs. Je crois qu'ils volent grâce à la sorcellerie. »
« Moi, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'animaux de légende, des fables. »
Richard cala un caillou entre son pouce et son index et l'envoya percuter un rocher.
« Des fables fondées sur de vieux souvenirs, sans doute, » dit Callan.
« Car pour exister, ils existent. »
Elle souleva ses cheveux pour se rafraîchir la nuque et ferma les yeux.
« Il y a différentes espèces, les gris, les verts, les rouges et quelques autres plus rares. Les rouges sont les plus gros et les plus intelligents. Dans les contrées du milieu, certaines personnes prennent les gris comme animaux de compagnie ou les dressent pour la chasse. Mais tout le monde se tient loin des verts car ils sont stupides, agressifs et souvent très dangereux. »
Callan leva les paupières et inclina la tête pour regarder Richard sous ses sourcils froncés.
« Les rouges entrent dans une toute autre catégorie. Ils peuvent carboniser un homme ou le dévorer si ça leur chante. Et ils sont très malins. »
« Ils mangent les gens ?»
s'exclama Richard. Déconcerté, il se passa les doigts dans les cheveux, puis il s'appuya sur les yeux avec le dos de ses mains.
« Seulement s'ils sont affamés ou très en colère. Pour eux, nous ne faisons pas un repas très consistant. »
Quand Richard baissa les bras et rouvrit les yeux, le regard de Callan était braqué sur lui.
« Mais je ne comprends pas pourquoi Ral en chevauchait un. »
Le sorcier se souvint de la créature rouge qu'il avait survolée dans la forêt de Venn, juste avant qu'il aperçoive Callan.
« Ce doit être comme ça qu'il se déplace si vite, »
dit-il en expédiant un autre caillou contre le rocher.
« Ce n'est pas ce qui m'étonne. Mais pourquoi un dragon rouge se serait-il soumis à lui ? Ces monstres sont jaloux de leur indépendance et ils ne se mêlent pas des affaires des hommes. On peut même dire qu'ils s'en fichent totalement. » Et il préférait mourir plutôt que de faire acte d'allégeance. Après un sacré combat. Leur sorcellerie peut donner du fil à retordre à celle de Dara, au moins dans un premier temps. Et même si Ral a menacé d'utiliser son pouvoir contre eux, il n'aurait pas cédé, préférant la mort à la servitude. Les dragons rouges sont du genre à se battre jusqu'à ce que leur ennemi ait péri, ou jusqu'à ce qu'il les ait abattus.
Callan se pencha vers Richard et baissa la voix.
« Un dragon rouge servant de monture à Ral ? Quelle idée étrange ! J'ai du mal à imaginer que quiconque puisse imposer sa volonté à une de ces créatures. »
Callan fixa un moment son compagnon, puis elle se redressa et s'amusa à cueillir du lichen sur un rocher.
« Ces dragons sont une menace pour nous ? »
demanda Richard. Une question plutôt stupide, s'avisa-t-il aussitôt, après ce que Callan venait de lui raconter.
« Pas vraiment. » J'en ai rarement vu de près. Un jour, alors que je marchais sur une route, un rouge a piqué vers un champ près de moi pour attraper 2 vaches. Il est parti avec 1 dans chaque serre. Si nous en rencontrons un et qu'il soit mal luné, ça pourrait être dangereux, mais ça n'est pas très probable.
« Nous avons déjà eu affaire à un dragon rouge, » lui rappela Richard. « Et ça s'est très mal terminé. »
Callan ne répondit pas, mais il semblait évident à son expression que ce souvenir l'attristait autant que lui.
« Eh bien, c'est donc là que vous êtes ?»
cria soudain une voix. Richard bondit sur ses pieds, la main sur la garde de son épée. Callan l'avait imité, prêt à tout.
« Asseyez-vous, asseyez-vous !»
lança le vieil homme qui descendait le chemin à leur rencontre.
« Je ne voulais pas vous ficher la frousse !»
Il éclata de rire, faisant trembler sa barbe blanche.
« C'est juste le vieux Jehan qui vous cherche depuis si longtemps. Asseyez-vous donc !»
Dans sa robe marron foncé, son gros ventre rond tressautait au rythme de son hilarité. Sous ses cheveux blancs, avec une impeccable raie au milieu, de longs sourcils frisés et des paupières tombantes protégeaient ses yeux noisettes. Un grand sourire sur son visage poupin, il attendit que les deux jeunes gens lui obéissent. Callan se rassit lentement. Sans éloigner la main de son épée, Richard s'accroupit un peu, le dos calé contre son rocher.
« Ainsi vous nous cherchiez ? »
fit-il méfiant.
« Mon vieil ami le sorcier m'a chargé de vous trouver. »
Richard se releva d'un bond.
« Zed, c'est de lui que vous parlez ?»
Le vieux Jehan rit de plus belle.
« Combien de vieux sorciers connais-tu, mon garçon ? Évidemment qu'il s'agit de Zed. »
Il se prit la barbe et tira dessus en les fixant d'un œil matois.
« Il avait une mission urgente à accomplir, mais à présent il veut que vous le rejoigniez. Quand il m'a demandé d'aller à votre recherche, j'ai accepté, vu que j'avais rien d'autre à faire. Il m'a dit où je vous trouverais et il ne s'était pas trompé, comme d'habitude. »
Richard sourit de cette dernière remarque.
« Comment va-t-il ? Où est-il et que nous veut-il ? »
Toujours hilar, le vieux Jehan tira un peu plus fort sur sa barbe.
« Il m'avait prévenu que tu me bombarderais de questions. Ce vieux filou se porte à merveille. Cela dit, j'ignore ce qu'il vous veut. Quand Zed est dans tous ses états, on lui obéit sans le soumettre à un interrogatoire.
« Mais où est-il ? C'est loin d'ici ?»
insista Richard, ravi à l'idée de revoir son ami. Le vieux Jehan se gratta le menton et se pencha un peu en avant.
« Ça dépend du temps que tu passeras à bavarder sans bouger tes fesses, mon garçon. »
Richard ramassa son sac, toute fatigue envolée. Alors qu'il suivait le vieil homme sur une piste caillouteuse, Callan lui fit son fameux sourire spécial. Le sourcier la laissa passer devant lui et scruta les bois environnants. Selon son ami, il n'était plus très loin du repère de la voyante.
Richard avait hâte de revoir Zed.
Depuis leur séparation, il était mort d'inquiétude pour son vieux mentor. Il ne doutait pas qu'Adi ait fait son possible pour le sauver, mais elle ne leur avait pas garanti que ça réussirait. Et si le sorcier était rétabli, ça signifiait sans doute que Chez aussi allait bien. Revoir Zed le ravissait. Il avait tellement de choses à lui raconter et tant de questions à lui poser.
« Alors, il est en pleine forme ? »
lança-t-il au vieux Jehan.
« J'espère qu'il n'a pas perdu de poids, déjà qu'il n'avait pas grand-chose sur les os. »«
Non !»
répondit Jehan sans se retourner.
« Il est exactement comme avant. »
« Il n'a pas dévalisé votre garde-manger ? »
« Ne te bile pas, mon garçon. Un vieux sorcier rachitique, ça se remplit l'estomac avec trois fois rien. »
Richard sourit sous cap. Zed ne devait pas être totalement rétabli, sinon le vieux Jehan n'aurait pas parlé comme ça. Après environ 2 heures de marche forcée derrière le vieil homme, en meilleure forme qu'il n'y paraissait, la forêt devint plus dense et plus sombre, les arbres plus gros se serrant les uns contre les autres. La piste accidentée, surtout à ce rythme, n'était pas facile à négocier. Partout autour d'eux, d'étranges cris d'animaux montaient des arbres. Ils arrivèrent devant une fourche où Jehan prit le chemin de droite sans hésiter ni marquer une pause. Callan le suivit dans la foulée. Richard s'arrêta, gêné par un détail qu'il ne parvenait pas à aller pêcher au fond de son cerveau. Chaque fois qu'il essayait, il se retrouvait en train de penser à Zed. Ne l'entendant plus marcher derrière lui, Callan se retourna et rebroussa chemin.
« Quelle route conduit au repère de la voyante ?»
demanda Richard.
« Celle de gauche, »
répondit la jeune femme, visiblement soulagée que leur guide ait emprunté l'autre.
« Tu vois les pics qu'on aperçoit au-dessus de la cime des arbres ? Ce sont ceux qui entourent l'allonge d'Agaden. »
Les sommets enneigés brillaient dans le lointain. Richard n'avait jamais vu de montagne à l'air aussi peu hospitalier. La comparaison avec une couronne d'épines lui sembla judicieuse. Il sonda le chemin de gauche qui s'enfonçait très vite dans la forêt.
« Vous venez ? »
lança le vieux Jehan qui s'était retourné les poings sur les hanches.
Richard regarda de nouveau l'autre piste. Même si Zed avait besoin d'eux, ils devaient trouver la boîte manquante avant Ral. C'était ça leur priorité.
D'après vous, Zed pourrait-il nous attendre un peu ?
Le vieil homme haussa les épaules et tira sur sa barbe.
Je n'en sais rien. Mais s'il n'y avait pas urgence, il ne m'aurait pas envoyé. À toi de décider, mon garçon. Pour revoir Zed, il faut me suivre.
Richard aurait voulu ne pas devoir prendre cette décision. Il aurait voulu savoir ce que désirait Zed et si c'était si urgent que ça.
Arrête de vouloir des choses et réfléchis, se tensa-t-il.
C'est encore loin ? Demanda-t-il.
Tirant toujours sur sa barbe, le vieux Jehan regarda le ciel qui s'obscurcissait déjà.
En marchant tard dans la nuit et en ne dormant pas beaucoup, nous y serons demain vers midi.
Le vieil homme regarda Richard, attendant qu'il se décide.
Kalan ne dit rien, mais le sorcier devina ce qu'elle pensait.
Approcher de Shota ne l'enchantait pas, et s'ils allaient d'abord voir Zed, comme il n'était pas très loin, revenir sur leurs pas ne serait pas une grande perte de temps.
Si le sorcier avait découvert la localisation de la boîte, voire la boîte elle-même, ça leur éviterait de s'aventurer dans la longe d'Agaden. Donc, suivre Jehan était le plus intelligent.
« Tu as raison, »
lança le sorcier à son ami.
« Mais je n'ai rien dit. »
« Je t'ai entendu penser, et j'approuve ton raisonnement.
Continuons avec Jehan. »«
Je ne savais pas que je pensais tout haut, » marmonna Kalan.
« Jehan !»
lança Richard.
« Si on ne s'arrête pas du tout, y serons-nous avant l'aube ?»« Je suis un vieil homme fatigué, mais je vois que tu es pressé, et Zed a rudement besoin de vous. »
Il braqua un index accusateur sur le sourcier.
« Il m'avait prévenu à ton sujet. » Et j'aurais dû l'écouter.
Richard eut un petit rire, puis fit signe à Kalan de passer devant lui. Elle accéléra pour attraper leur guide qui avait déjà pris de l'avance.
Distrait, le jeune homme la regarda marcher, écarter une toile d'araignée de son visage et recracher des fils. Quelque chose clochait dans tout ça, et il ne parvenait pas à trouver quoi.
Il essaya de réfléchir, mais repensa à Zed, qu'il était si pressé de revoir, et à qui il avait tant à raconter. Persuadé que des yeux les pieds, il décida de faire comme si de rien n'était.
« C'est surtout mon frère qui me manque, »
confia Rachel à la poupée.
« On m'a dit qu'il est mort. »
Toute la journée, Rachel avait confié au jouet les malheurs qui lui étaient revenus à l'esprit. Quand des larmes lui montaient aux yeux, la poupée répétait qu'elle l'aimait, et ça la réconfortait. Parfois, ça la faisait même rire. La fillette remit un peu de petit bois dans le feu. Avoir de la lumière et ne pas trembler de froid était si agréable. Mais comme Giller le lui avait conseillé, elle veillait à ce que les flammes ne soient pas trop hautes. Leur lueur lui évitait d'avoir peur dans cette forêt, surtout la nuit. L'obscurité reviendrait bientôt avec les bruits étranges qui l'effrayaient et lui donnaient envie de pleurer. Mais être là valait quand même mieux qu'un séjour dans le coffre à linge.
« Ça s'est passé quand je vivais à l'endroit dont je t'ai parlé, avec d'autres enfants, avant que la reine vienne me prendre. J'étais beaucoup plus heureuse là-bas. Tout le monde était gentil avec moi. »
Elle baissa les yeux sur la poupée pour s'assurer qu'elle écoutait.
Un homme appelé Brophy passait nous voir de temps en temps. Les gens disaient du mal de lui, mais il était très doux avec les enfants. Comme Giller, tu vois. Il m'avait aussi offert une poupée. La reine m'a interdit de l'emporter. Je m'en fichais parce que j'étais si triste que mon frère soit mort. Certaines personnes ont dit qu'il avait été assassiné. Pourquoi les gens tuent-ils les enfants ?
La poupée se contenta de sourire.
Rachel l'imita. Puis elle pensa au nouveau petit garçon que la reine avait fait enfermer. Il parlait une drôle de langue et il avait l'air bizarre, mais il lui avait rappelé son frère.
Surtout parce qu'il semblait effrayé.
Comme son frère qui avait toujours peur. C'était facile à voir puisqu'il se tortillait comme un ver dès qu'il avait la frousse.
Rachel était désolée pour le nouveau petit garçon. Elle aurait aimé être une personne importante et pouvoir l'aider.
Elle mit les mains au-dessus du feu pour les réchauffer, puis en fourra une dans sa poche. Elle mourait de faim.
À part quelques baies, elle n'avait rien trouvé à se mettre sous la dent. Elle en sortit une grosse et la proposa à la poupée, qui ne semblait pas avoir d'appétit. Alors, elle la mangea, puis prit les autres et les dévora toutes. Pas rassasiée du tout, elle renonça à aller en cueillir de nouvelles.
Il fallait aller loin de son refuge et la nuit tombait, pas question d'être dans la forêt quand il ferait noir. Sous le pin compagnon, avec du feu et de la lumière, elle se sentait si bien.
« La reine deviendra peut-être plus gentille quand elle aura eu son alliance, même si j'ignore ce que c'est. Elle ne parle que de ça. Si elle est plus heureuse après, elle n'aura peut-être plus envie de couper la tête des gens. La princesse me force à venir, mais je n'aime pas ça, alors je ferme les yeux. À présent, Violette aussi fait décapiter des hommes. Chaque jour, elle devient un peu plus méchante. Et si elle s'en prenait à ma tête un jour? Tu sais, j'aimerais m'enfuir et ne jamais revenir. Bien sûr, je t'emmènerai avec moi. »
« Je t'aime, Rachel, »
dit la poupée en souriant. La fillette serra le jouet contre elle et l'embrassa sur le sommet du crâne.
« Mais si nous partons, Violette enverra des gardes à ma recherche, puis elle te jettera dans le feu. Je ne veux pas que ça arrive parce que je t'aime. »«
Je t'aime, Rachel. »
L'enfant serra de nouveau son jouet puis s'étendit dans la paille, la poupée tout près d'elle. Au matin, elle devrait retourner au château et la princesse recommencerait à la maltraiter. En partant, elle laisserait la poupée derrière elle, sinon c'était sûr, elle finirait dans les flammes.
« Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. »«
Avec Giller ?» Mais qu'arriverait-il à la poupée quand elle serait seule dans le pin compagnon? Elle se sentirait solitaire et délaissée? Et si la princesse ne l'envoyait plus jamais dormir dehors? Si elle découvrait que ça lui faisait en réalité plaisir et qu'elle l'enferme au château en guise de punition.
« Sais-tu ce que je dois faire ? »
demanda-t-elle au jouet en regardant la lumière des flammes danser sur les branches de l'arbre.
« Aide, Giller !»
répondit la poupée. Rachel s'appuya sur un coude et dévisagea sa petite compagne.
« Je dois aider Giller ?»«
Aide, Giller !»
répéta la poupée en hochant la tête.
Les reflets du soleil couchant sur le tapis de feuilles faisaient briller comme une balise le chemin qui serpentait dans la forêt. De temps en temps, Richard entendait résonner les talons des bottes de Callan sur les pierres dissimulées sous les végétaux. Une odeur de moisissure planait dans l'air. Entre les rochers, les petites piles de feuilles mortes amenées là par le vent se décomposaient déjà. Il en allait de même dans chaque creux du terrain où stagnait de l'humidité. Bien que l'air se fût rafraîchi, Callan et Richard n'avaient pas mis leur manteau, le corps surchauffé par le rythme d'enfer que leur imposait le vieux Jehan. Le sourcier essayait de penser à Zed, mais il était sans cesse distrait par la nécessité d'accélérer le pas pour éviter d'être distancé. Peu à peu, l'épuisement effaça le sorcier de son esprit, mais une idée ne le quittait pas. Quelque chose ne tournait pas rond. Cette intuition devint soudain un raisonnement structuré. Comment un vieillard pouvait-il le pousser à ses limites et rester rose et frais comme un gardon? Richard se tâta le front, se demandant s'il avait de la fièvre. Effectivement, il était chaud. Donc ça venait peut-être de lui, pas de leur compagnon? S'il était malade. D'accord, ils n'avaient pas ménagé leurs efforts ces derniers jours, mais il avait connu pire. Tout compte fait, il se sentait bien, à part la fatigue. Il regarda Callan qui le précédait toujours. Elle aussi peinait à tenir le rythme. Après avoir chassé une autre toile d'araignée de son visage, elle dut presque courir pour rattraper Jehan. Comme lui, elle avait le souffle court. Sans qu'il sache trop pourquoi, l'intuition de Richard devint un mauvais pressentiment. Sur sa gauche, dans les bois, il aperçut une silhouette qui semblait les suivre. Sans doute un petit animal. Sauf que ça ressemblait à une créature aux membres si longs qu'il traînait sur le sol. Une seconde plus tard, il ne vit plus rien. La bouche sèche, il pensa que son imagination lui jouait des tours. Il se concentra sur le vieux Jehan. Le chemin, assez large par moments, s'étrécissait parfois, à demi obstrué par des branches. Quand Callan et lui abordaient ces passages, il devait les écarter en tendant les bras ou faire un détour. Pas le vieil homme. Il restait au centre du chemin, les mains sur les pans de son manteau pour le tenir bien fermé et ne semblait pas gêné par les obstacles. Le regard de Richard fut attiré par une toile d'araignée qui illuminait les derniers rayons du soleil. Quand Callan l'atteignit et la traversa, des fils s'enroulèrent autour de ses jambes à l'endroit de la cassure. La sueur qui ruisselait sur le visage de Richard lui sembla soudain glacée. Comment Jehan avait-il fait pour ne pas déchirer la toile ? Devant eux, le sourcier aperçut une branche dont la pointe saillait sur le chemin.
Le vieil homme fit un écart insuffisant pour éviter l'obstacle que son bras traversa comme s'il avait été composé de fumée. Richard étudia les empreintes laissées par Callan sur une bande de terre meuble. Il ne vit pas trace de celle de Jehan. Il tendit la main gauche, saisit son ami par la chemise et l'attira vers lui. Alors qu'elle lâchait un petit cri de surprise, il la poussa derrière lui et dégaina son épée. Entendant la note métallique de l'arme, Jehan s'arrêta et se retourna à demi.
« Que se passe-t-il, mon garçon ?»
lança-t-il d'une voix qui évoquait les sifflements d'un serpent.
« Tu as vu quelque chose ?»«
Exactement !» Le sourcier prit l'épée à deux mains et se campa solidement sur ses jambes. L'arme au poing, il sentit la colère balayer sa peur comme une bourrasque chasse des feuilles mortes. « Comment se fait-il que vous ne déchiriez pas les toiles d'araignée quand vous les traversez ? Et pourquoi ne laissez-vous pas d'empreintes sur le sol ?»
Le vieux Jehan sourit.
« Tu t'étonnes que le vieil ami d'un sorcier ait des pouvoirs un peu spéciaux ?»«
Pas mal essayé, » fit Richard, le regard volant de droite à gauche, à l'affût d'un danger.
« Puisqu'on en parle, dites-moi un peu le nom de votre vieil ami. » « Il s'appelle Zed. Comment le saurais-je si je ne le connaissais pas depuis des lustres ?»
Le vieux Jehan tira les plis de son manteau sur son gros ventre et sa tête s'enfonça dans ses épaules.
« C'est moi, comme un idiot, qui vous ai dit qu'il se nommait Zed. À présent, donnez-moi le nom complet de votre cher ami. »
Le regard de Jehan changea. Vif, attentif, aux aguets, les yeux d'un prédateur.
Avec un rugissement qui fit sursauter Richard, le vieil homme se retourna complètement, son manteau soudain ouvert. Dans le même mouvement, il avait poussé comme un champignon pour atteindre le double de sa taille d'origine. À la place du vieillard se dressait un cauchemar ambulant composé de fourrures, de griffes et de crocs. Une bête rugissante et féroce, avec une gueule énorme. Quand le monstre bondit, Richard recula de trois pas, l'épée serrée si fort qu'il en avait mal aux phalanges. Les cris sauvages et vicieux de cette horreur sur pattes emplissaient les bois et sa gueule s'ouvrait de plus en plus grand avec chaque hurlement. La créature se pencha vers Richard, ses yeux rouges brillants d'avidité, et elle fit claquer ses énormes crocs. Le jeune homme recula encore, épée brandie. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et ne vit pas Callan. La bête chargea si vite qu'il n'eut pas le temps de lever son épée. Trébuchant sur une racine, il tomba à la renverse et se reçut sur le dos, le souffle aussitôt coupé. Par réflexe, il tendit son épée, espérant que le monstre s'empalerait dessus. Des crocs acérés, dégoulinant de bave, évitèrent la lame et tentèrent de se refermer sur son visage. Il tendit davantage son arme, mais le corps de la bête restait hors de portée. Des yeux rouges furieux se rivèrent sur la lame. Puis la bête recula vers les bois, sur sa droite, les oreilles rabattues, comme si elle fuyait un danger. Elle ramassa une pierre grosse comme deux fois la tête de Richard, leva son atroce museau, prit une grande inspiration et avec un rugissement serra sa proie entre ses griffes. Les muscles noueux de ses bras se tendirent jusqu'à ce que la pierre explose avec un craquement sinistre qui se répercuta dans la forêt. De la poussière et des fragments de roc volèrent dans les airs. La créature regarda autour d'elle, se détourna et s'enfonça dans les bois. Toujours sur le dos, Richard se raidit, certain qu'elle allait revenir. Puis il appela Callan et n'obtint pas de réponse. Avant qu'il ait pu se relever tout à fait, une créature grisâtre, aux bras interminables, se jeta sur lui et le refit tomber sur le dos. Des mains noueuses saisirent les siennes, tentant de lui arracher l'épée. Avec des cris de rage à percer les tympans, le monstre lui flanqua dans la mâchoire un coup de coude qui manqua l'assommer. À chaque cri, les lèvres exsangues de la créature révélaient ses crocs pointus et ses yeux jaunes globuleux ne quittaient pas le visage de sa proie qu'elle entendait visiblement prendre pour cible. Richard s'accrocha de toutes ses forces à l'épée et essaya d'échapper à l'étreinte des longs doigts de son assaillant.
« Mon épée !»
rugit le monstre.
« Donne-moi mon épée !»
Les deux adversaires roulèrent sur le sol en voyant valser dans les airs des feuilles mortes et des brindilles. Puis une des énormes mains se tendit, saisit Richard par les cheveux et lui tira la tête en arrière pour la cogner sur une pierre. Sentant une trop grande résistance, la main vola de nouveau vers la garde de l'épée, en arracha la main droite du sourcier et se referma sur la gauche, qui tenait encore l'arme. Des cris atroces retentirent, peut-être des hurlements de triomphe. Quand des doigts d'acier entreprirent d'ouvrir la main gauche du sourcier, des griffes s'enfonçant dans sa chair. Richard comprit qu'il ne gagnerait pas. La créature, malgré sa minceur et sa petite taille, était plus forte que lui. S'il ne trouvait pas une solution, elle ne tarderait plus à lui arracher l'épée.
« Donne-la-moi !»
siffla le monstre avant de tourner sa tête grise vers le sourcier pour tenter de le mordre au visage. Entre ses crocs, des immondices spongieuses se décomposaient dans une puanteur infernale, une haleine de charnier. Sur le crâne lisse jaunâtre du monstre, Richard aperçut d'immondes taches noires. Alors qu'il roulait de nouveau sur le sol, le jeune homme porta une main à sa ceinture, dégaina son couteau, releva le bras et plaqua la lame sur le cou de son adversaire.
« Pitié, pas tuer, pas tuer !»«
Lâche l'épée, tout de suite !»
À contre-cœur, la créature obéit. L'immonde bête, toujours sur la poitrine, Richard la sentit devenir toute molle.
« Pitié, pas tuer !»
gémit-elle. Richard se dégagea du monstre, le plaqua dos au sol et appuya la pointe de l'épée sur son sternum. Les yeux jaunes du vaincu s'écarquillèrent. La colère de l'épée de vérité, qui avait jusque-là semblé diffuse, presque perdue, réinvestit l'âme du sourcier. « Si tu bronches d'une manière qui ne me plaît pas, dit-il, je t'enfonce cette lame dans le cœur, compris ?» Le monstre hocha vigoureusement la tête.
« Où est parti ton ami ?»«
Mon ami ?»«
La bête énorme qui a failli m'avoir avant que tu m'attaques. » »«
Le caltrope ? Pas ami à moi. Toi, chanceux, le caltrope tue la nuit. Il attendait plus de soleil pour te tuer. La nuit, il a des pouvoirs. Toi, vraiment chanceux. » »«
Je ne te crois pas. Tu es son complice. » »«
Non. » Je suivais, c'est tout, jusqu'à ce qu'il te tue.
Pourquoi ?
Les yeux globuleux du monstre se posèrent sur l'épée.
Mon épée, tu me la donnes, pitié !
Pas question !
Richard chercha Callan du regard. Son sac gisait sur le chemin, pas très loin derrière lui, mais elle n'était nulle part en vue. Fou d'inquiétude, il continua de sonder les alentours. Le caltrope, il le savait, n'avait pas pu capturer Callan, car il s'était enfui seul dans les bois. Sans cesser d'appuyer la pointe de sa lame sur la poitrine du monstre, il cria plusieurs fois le nom de son ami. En vain.
« Ma maîtresse a eu la jolie dame. »«
Que racontes-tu ? » ?»«
Ma maîtresse, elle a capturé la jolie dame. »
Richard appuya plus fort sur l'épée, histoire de convaincre la créature de se montrer volubile.
« On vous suivait, pour voir le caltrope s'amuser avec vous. Regardez la suite. »
Les gros yeux jaunes se posèrent de nouveau sur la lame.
« Et voler l'épée ?»«
Pas voler. À moi. Donne-la-moi. »
Les mains de la créature se levèrent. Richard appuya un peu plus fort sur la lame et tout rentra dans l'ordre.
« Qui est ta maîtresse ?»
« Maîtresse !»
cria le monstre comme s'il appelait au secours.
« C'est Shota !»«
La voyante ?»«
Oui. »«
Pourquoi a-t-elle capturé la jolie dame ?»
demanda Richard en serrant plus fort l'épée.
« Le sais pas. Pour jouer avec, peut-être, ou la tuer, ou pour t'avoir, toi. »«
Retourne-toi !»
dit Richard. La créature gémit.
« Retourne-toi ou je t'embroche comme un poulet !»
Le monstre obéit en tremblant. Richard lui posa un pied au creux des reins sous sa colonne vertébrale saillante. Il ouvrit son sac, en sortit une corde, fit un nœud coulant et le passa autour du cou de son prisonnier.
« Tu as un nom ?»«
Compagnon. Je suis le compagnon de ma maîtresse, Samuel. »
Richard tira sur la corde pour forcer le « compagnon » à se relever. Des feuilles mortes s'étaient collées à la peau grisâtre de sa poitrine. «
Samuel, nous allons chercher ta maîtresse.
Tu ouvriras la marche. Au moindre faux mouvement, je t'arrache la tête en tirant sur la corde. Tu as compris ?
Samuel approuva frénétiquement du chef. Après un coup d'œil à la corde, il recommença plus lentement.
« La longe d'Agaden. Le compagnon t'y a amené, mais pas tué, hein ?»«
Si tu me conduis à ta maîtresse et que la jolie dame n'a rien, je t'épargnerai. »
Richard tira sur la corde pour montrer à Samuel qui était le chef, puis il remit son épée au fourreau.
« Tiens, tu porteras le sac de la jolie dame. »
Samuel lui arracha le paquetage et commença à fouiller dedans.
« C'est à moi, donne !»
Le sourcier tira de nouveau sur la corde. « Ça ne t'appartient pas, et enlève tes sales pattes de là !»
Deux yeux jaunes globuleux se braquèrent sur lui.
« Quand maîtresse t'aura tué, Samuel te mangera !»«
Si je ne te bouffe pas avant !» lança Richard. « J'ai une faim de loup. Un petit ragoût de Samuel en chemin me calerait peut-être l'estomac. »
Dans le regard de la créature, la haine fut aussitôt remplacée par de la terreur.
« Pitié, pas tué. Samuel va te conduire chez sa maîtresse. Tu retrouveras la jolie dame, juré. »
Le compagnon mit le sac sur son épaule, fit quelques pas et s'arrêta quand la corde n'eut plus de mou.
« Suis Samuel, vite, et pas de ragoût, pitié !»
Alors qu'il redescendait le chemin, l'étrange créature continua à implorer Richard de lui laisser la vie sauve. Cessant d'écouter, le jeune homme se demanda quel genre d'être était Samuel. Il éprouvait en le regardant une sensation dérangeante de familiarité. Il n'était pas très grand, mais extrêmement fort. La mâchoire de Richard lui faisait encore mal à l'endroit où il l'avait frappé et son cuir chevelu restait douloureux. Les longs bras de Samuel frôlaient le sol alors qu'il l'avançait d'une démarche bizarrement chaloupée, répétant toujours qu'il ne voulait pas finir dans un chaudron. À part un pantalon noir à jambes courtes tenu par des bretelles, il ne portait pas de vêtements. Ses pieds énormes faisaient le pendant avec ses mains et ses bras. Son ventre rond semblait bien rempli, même si Richard préférait ne pas savoir de quoi. Il n'avait pas un poil sur le corps. À la couleur de sa peau, on aurait cru qu'il n'avait pas vu le soleil depuis des années. De temps en temps, il s'emparait d'un bâton ou d'une pierre et s'écriait
« À moi, donne-moi !»
sans s'adresser à personne. Très vite, perdant tout intérêt pour sa nouvelle trouvaille, il la jetait négligemment. Sans cesser de surveiller les bois, Richard gardait un œil sur le compagnon et l'incitait fréquemment à accélérer le pas. Inquiet pour Callan, il était furieux de sa propre stupidité. Le vieux Jehan, ou plutôt le Caltrope, l'avait roulé dans la farine. Comment pouvait-on être aussi crédule ? Il était tombé dans le panneau parce qu'il brûlait de croire à une fable, trop content à l'idée de revoir Zed. Exactement ce qu'il conseillait aux autres de ne pas faire. Et voilà qu'il avait fourni à un monstre des informations qu'il lui avait suffi de répéter pour prouver sa bonne foi. Quel crétin, décidément ! De quoi avoir honte ?
Parfois, les gens croient des choses simplement parce qu'ils ont envie qu'elles se produisent.
Avait-il dit à Callan au sujet des hommes d'Adobe ? Il avait cédé à cette faiblesse, et maintenant son ami était prisonnière de la voyante qui l'effrayait tellement. Dès qu'il baissait sa garde, la jeune femme payait les pots cassés. Mais si la voyante lui avait fait du mal, elle goûterait à la colère d'un sourcier. Une nouvelle fois, il se trouva idiot car il laissait son imagination s'emballer. Si Shota avait voulu tuer Callan, elle l'aurait exécuté sur place, sans prendre la peine de l'emmener dans la longe d'Agaden. Mais pourquoi l'avoir capturée ? Pour s'amuser avec elle, comme l'avait dit Samuel ? Il valait mieux ne pas trop remuer cette idée dans sa tête. C'était lui que la voyante voulait, pas Callan. Et si le Caltrope avait déguerpi, c'était sûrement parce qu'elle lui avait fichu la frousse. Quand ils arrivèrent à l'intersection, Samuel s'engagea immédiatement sur le chemin de gauche. La nuit tombait, mais le compagnon ne ralentit pas. La piste montait et descendait sans cesse. Elle les conduisit très vite hors des bois, sur un chemin à ciel ouvert qui serpentait entre les rochers, en direction des pics couverts de neige. Au clair de lune, Richard distingua deux séries d'empreintes, dont celle de Callan. Un bon signe, puisque ça prouvait qu'elle était toujours en vie. Apparemment, Shota n'avait pas l'intention de l'éliminer. Pour le moment. À ces hauteurs, la neige était humide, lourde et peu commode à traverser. Sans Samuel pour le guider vers les endroits les plus praticables du chemin, Richard aurait eu besoin de plusieurs jours pour franchir ces pics. Un vent glacial soufflait entre les rochers, poussant au loin les nuages de buée de leur respiration. Le compagnon tremblait de tous ses membres. Richard mit son manteau et sortit celui de Callan du sac que portait Samuel.
« Ce vêtement appartient à la jolie dame, mais tu peux le mettre pour ne pas crever de froid. »
Le compagnon lui arracha le manteau des mains.
« À moi, donne-moi, donne-moi !»«
Si tu le prends comme ça, tu continueras à te geler. »
Richard tira sur la corde et récupéra le bien de Callan.
« Pitié, Samuel a froid, il peut avoir le manteau de la jolie dame. »
Richard lui rendit l'objet de sa convoitise. Cette fois, Samuel le prit délicatement et le mit sur ses épaules. La vue de cette créature donnait la chair de poule aux sourciers. Affamé, il sortit de son sac un morceau de tabac et le mangea en marchant. Quand il ne supporta plus que Samuel lui jette des coups d'œil par-dessus son épaule, il lui en proposa un morceau. Deux mains énormes se tendirent avidement.
« À moi, donne-moi !»
Richard recula et deux yeux jaunes implorants se levèrent vers lui.
« Pitié !»
Le sourcier se laissa attendrir. Après avoir englouti le pain, le compagnon marmonna dans sa barbe alors qu'ils avançaient toujours sur la neige. S'il en avait l'occasion, Richard n'en doutait pas, Samuel lui couperait la gorge sans hésiter. Cette créature n'avait décidément aucune qualité morale pour compenser sa laideur.
« Samuel, pourquoi Shota te garde-t-elle avec elle ?»
La créature tourna la tête, le front plissé de perplexité.
« Moi, compagnon !»«
Ne sera-t-elle pas furieuse que tu m'aies conduit chez elle ?»
Samuel émit un gargouillis que Richard interpréta comme un rire.
« Ma maîtresse, pas peur du sourcier !»
Un peu avant l'aube, en haut d'une descente qui donnait sur une forêt obscure, Samuel pointa un bras vers le bas.
« Allonge d'Agaden !»
dit-il. Il se retourna, un sourire narquois sur les lèvres.
« Maîtresse !»
Dans la forêt, il régnait une chaleur infernale. Richard enleva son manteau, récupéra celui de Callan et le remit dans le sac. Samuel le regarda faire sans protester, l'air ravi d'être de retour chez lui. Soucieux que le compagnon ne s'aperçoive pas qu'il était presque aveugle dans cette obscurité, Richard fit semblant de voir où ils allaient. En réalité, il se laissait guider par la corde. Samuel, lui, gambadait comme en plein jour. Chaque fois que sa tête chauve se tournait vers le sourcier, ses yeux jaunes brillaient comme deux lanternes. Quand la lumière de l'aube s'infiltra dans la forêt, Richard distingua d'énormes arbres aux troncs couverts de mousse, des flaques d'eau boueuse d'où montaient des volutes de vapeur et des yeux qui les épiaient, sillant dans les ombres. Des cris angoissants déchiraient la brume tandis que le sourcier enjambait avec précaution des entrelacs de racines. L'endroit lui rappelait un peu le marais de Sko, et s'appuyait au moins autant.
« C'est encore loin ?» demanda Richard.
« Très près !»
fit Samuel avec un rictus.
« N'oublie pas !»
lança le sourcier en tirant sur la corde. « Si ça tourne mal, tu mourras le premier !» Le rictus s'effaça des lèvres exsangues du compagnon. De ci, de là, dans la boue, Richard apercevait d'autres empreintes de Callan, donc elle avait survécu, au moins jusqu'ici. Des silhouettes noires les suivaient, tapies dans les broussailles, et lâchaient de temps en temps des hurlements étranglés. Inquiet, Richard se demanda si c'était des monstres dans le genre de Samuel, ou pire. Certaines créatures les pistaient en hauteur, passant de cime d'arbre en cime d'arbre. Malgré lui, un frisson parcourut le long de la colonne vertébrale du sourcier. Samuel fit un détour pour éviter les racines qui affleuraient d'un petit arbre au tronc ventru.
« Que fiches-tu ? »
demanda Richard en tirant sur la corde. Samuel se retourna et sourit.
« Regarde !»
Il ramassa un bâton aussi gros que son poignet et le lança vers l'entrelac de racines.
Des tentacules jaillirent, s'enroulèrent autour du bout de bois et le tirèrent dans la masse végétale désormais grouillante. Richard entendit un craquement sourd et Samuel gloussa comme une vieille oie. Alors que le soleil continuait à s'élever dans le ciel, la forêt de l'allonge d'Agaden sembla devenir de plus en plus obscure. Au-dessus de leur tête, des branches s'entrelaçaient si étroitement que la lumière ne passait plus. Avec les colonnes de brume qui se dressaient sur leur chemin,
Richard n'arrivait plus à voir Samuel à l'autre bout de la corde, mais il continuait d'entendre des grattements, des grincements de griffes et des ululements qui n'auguraient rien de bon. Parfois, la brume se déchirait sur le passage de créatures qui les frôlaient sans se dévoiler. Richard se souvint de ce qu'avait dit Callan. Ils étaient des morts en sursis. Aussitôt, il tenta de chasser cette idée de son esprit. Son amie n'avait jamais rencontré Shota, mais ce qu'elle avait entendu à son sujet expliquait cette erreur. Ceux qui s'aventuraient sur son territoire n'en revenaient jamais. Même les sorciers refusaient d'y aller. Quoi qu'il en soit, cela restait des informations indirectes. Callan n'avait jamais vu Shota, et les gens, dans ce genre de cas, en rajoutaient toujours. Enfin, pratiquement toujours, rectifia-t-il en sondant l'angoissante forêt. Devant eux, la lumière du soleil filtra soudain des arbres serrés les uns contre les autres, et un bruit de cascade monta aux oreilles du sourcier. À mesure qu'ils avançaient, la lueur se fit de plus en plus vive. Quand ils atteignirent la lisière de la forêt, le chemin s'arrêta abruptement et Samuel éclata d'un rire joyeux. À leurs pieds s'étendait une longue et étroite vallée luxuriante, inondée de soleil et entourée d'une couronne de pics déchiquetés. Séparés par des étendues d'herbes jaunissantes, les bosquets de chênes, de hêtres ou d'érables offraient aux caresses de la brise leur riche couleur d'automne. De là où ils étaient, à la limite de la forêt, les deux voyageurs auraient pu croire qu'ils regardaient le jour depuis le cœur même de la nuit. Non loin d'eux, des rapides dévalaient des rochers escarpés puis disparaissaient comme par magie et sans un bruit avant de rejoindre les ruisseaux et les étangs beaucoup plus bas d'où montaient des grondements lointains. Des embruns portés par le vent cinglèrent les joues du sourcier et de son étrange compagnon.
« Maîtresse !»
dit Samuel en désignant la vallée en contrebas. Richard tira sur la corde pour le faire avancer. Ils traversèrent un labyrinthe de broussailles, d'arbres et de rochers couverts de fougères pour arriver à un endroit que le sourcier n'aurait jamais découvert sans guide. Une piste au bord du précipice qui serpentait entre d'autres rochers et des entrelacs de lianes descendant en pente relativement douce vers la vallée. En chemin, Richard admira le magnifique panorama. Les arbres qui semblaient si petits sur les flancs de douces collines, les cours d'eau qui ondulaient au milieu des champs, le ciel bleu qui veillait sur toutes ces merveilles. Au centre de cette splendeur, niché au cœur d'un cercle de grands arbres, se dressait un palais d'une beauté à couper le souffle. De fines passerelles reliaient ces spires délicates et des escaliers s'enroulaient autour de ces tourelles. Partout, des étendards et des banderoles multicolores se laissaient paresseusement agiter par le vent. On eût dit que tout dans cette étourdissante demeure tendait en permanence à atteindre les cieux. Richard en resta bouche bée un moment, se demandant s'il devait en croire ses yeux. Il adorait Heartland, sa ville natale, mais il n'y avait rien là-bas qui pût se comparer à ce chef-d'œuvre d'architecture. En un mot, c'était la plus belle réalisation humaine qu'il eût jamais contemplée. Et il n'aurait pas imaginé qu'une telle beauté et un tel ravissement puissent exister. Ils recommencèrent à descendre en direction de l'incroyable vallée. Par endroits, ils progressèrent sur des marches sculptées à même la roche. Des milliers de degrés qui descendaient en ligne droite, puis tournaient, retournaient, se déversaient en spirale et parvenaient même à passer les uns au-dessous des autres. Samuel les dévalait comme si c'était la millième fois et qu'il les connaissait mieux que sa poche. À l'évidence, rentrer chez lui et retrouver la protection de sa maîtresse lui donnait du cœur au ventre. Au pied de ce fabuleux escalier, en plein jour, une route serpentait entre les collines boisées et les champs. Quand Samuel accéléra le pas, Richard tira un bon coup sur la corde pour lui rappeler qu'il était loin d'avoir recouvré sa liberté. Alors qu'il s'approchait du palais, après avoir suivi un moment le cours d'un ruisseau, les arbres devinrent plus épais. Davantage serrés les uns contre les autres, c'étaient tous de magnifiques spécimens qui ombrageaient généreusement la route et les champs environnants. Au sommet d'une petite butte, ils semblèrent soudain massés comme des sentinelles devant une place forte. Entre leurs branches, Richard aperçut les spires du palais. Et ils entrèrent lentement dans cette cathédrale végétale pleine d'ombre et de quiétude. Richard entendit le gazouillis de l'eau qui coulait entre de grosses pierres enveloppées de mousse. Dans la douce senteur de l'herbe et des feuillages, des rayons de soleil vaporeux illuminaient timidement cette oasis de paix. Samuel tendit un bras vers le centre de la zone ouverte au-delà des arbres, où se dressait un rocher d'où jaillissait une source qui alimentait un ruisseau au lit semé de pierres enveloppées dans un écrin de mousse verte et brillante. Vêtue d'une longue robe blanche, une femme aux cheveux noirs, le dos tourné à Richard, était assise sur l'arête du rocher. Sous la lumière vaporeuse du soleil, elle passait lentement ses doigts dans l'eau claire, comme si elle eût voulu la caresser. Même de dos, elle parut familière au sourcier.
« Maîtresse !»
annonça Samuel le regard soudain vitreux. Il tendit de nouveau un bras vers le bas-côté de la route plus près d'eux.
« Eh, jolie dame !»«
Callan ! Oui, c'était elle ! Mais, étrangement raide, comme si elle osait à peine respirer, on eût dit que quelque chose bougeait sur son corps. Des ombres ou... »
Samuel se retourna à demi et désigna la corde d'un long index gris, puis... il regarda fixement Richard.
« Tu as promis, sourcier !»
grogna-t-il. Richard récupéra le sac de Callan sur l'épaule du compagnon, le posa sur le sol et libéra Samuel. Aussitôt, la créature lui fit une atroce grimace, siffla haineusement, puis alla se tapir dans les ombres où elle s'accroupit comme un prédateur à l'affût. La gorge nouée, Richard approcha de Callan et sursauta quand il vit ce qui rampait sur elle. Des serpents. Une immonde masse de serpents. Tous ceux qu'il reconnut étaient venimeux. Les plus gros s'enroulaient autour de ses jambes. L'un d'eux, plus hardi, lui en serrait la taille. D'autres enveloppaient ses bras, qu'elle tenait serrés le long des flancs. Dans ses magnifiques cheveux, de plus petits reptiles rampaient en dardant la langue. Autour de son cou, leur compagnon lui composait un redoutable collier. Enfin, sur sa poitrine, des téméraires tentaient de passer la tête entre les boutons de sa chemise pour s'y infiltrer. Des larmes coulaient sur les joues de Callan. En la voyant trembler imperceptiblement, consciente que tout mouvement brusque la tuerait, Richard sentit son propre cœur cogner à tout rompre dans sa poitrine. « Ne bouge pas, » dit-il d'une voix très calme. « Je vais te débarrasser de ces horreurs. »«
Non !» souffla Callan. « Si tu les touches, ou si je bouge, ils me mordront. »«
Tout va bien, » mentit Richard pour la rassurer. « Je vais te sortir de là. »«
Non, je suis fichu. »« Abandonne-moi. » « Va-t'en d'ici, vite !»
Richard eut le sentiment qu'une main géante l'étranglait. Dans les yeux de son ami, il vit à quel point elle luttait pour ne pas céder à la panique. Désireux de la soutenir, il tenta de ne pas montrer son désarroi.
« Pas question de te laisser »
souffla-t-il. Une vipère, la queue enroulée dans les cheveux de sa proie, laissa glisser sa gueule le long du visage de Callan et darda sa langue rouge. La jeune femme ferma les yeux, les dents serrées pour ne pas hurler. Lentement, le serpent ondula le long de sa joue, rampa sur son épaule et disparut sous sa chemise.
« Je vais mourir, Richard, » murmura Callan. « Tu ne peux rien pour moi. S'il te plaît, pense à toi. Fuis tant qu'il te reste une chance. »
Richard redouta soudain qu'elle bouge délibérément afin d'être mordue. Ainsi, il n'aurait plus besoin de rester. Il devait la convaincre que ça ne changerait rien à sa décision.
« Non, je suis venu pour découvrir où est la boîte. Pas question de partir sans avoir la réponse, alors tiens-toi tranquille. »
Callan écarquilla les yeux, sans doute à cause de ce que faisait la vipère sous sa chemise. Le front plissé, la jeune femme se mordit très fort les lèvres.
« Callan, résiste !»
dit Richard, la bouche sèche.
« Essaie de penser à autre chose. »
Furieux, il courut vers la femme assise sur le rocher, lui tournant toujours le dos. Une petite voix lui souffla de ne pas dégainer son épée, mais il refusa de contenir sa colère face à ce que l'inconnu infligeait à Kalan. Quand il fut à un pas d'elle, la femme se leva, se retourna avec grâce et prononça doucement le nom de Richard. Cette voix, il la connaissait. Il crut que son cœur allait exploser quand il vit le visage qui inévitablement allait avec.